Nous reprenons, si vous voulez bien. Et notre invité aujourd'hui est Renaud Camus. Alors, je ne vais certainement pas citer tous les titres de ses livres parce qu'il ne lui resterait plus beaucoup de temps pour vous parler. Renaud Camus écrit beaucoup, dans beaucoup de genres différents. Je parlerai d'abord des romans, parce que quand je l'ai connu vers le milieu des années 1970, autour de Roland Barthes, c'était surtout des romans. Je crois qu'il n'y avait encore que des romans à ce moment-là, des romans qui étaient dans la continuation du nouveau roman, des romans expérimentaux, où il m'avait fait l'honneur de me citer dans l'un d'entre eux, si mes souvenirs sont bons, à propos de la citation sur laquelle je travaillais à l'époque. Donc c'est comme ça que nous nous sommes connus il y a donc 25 ou 30 ans à peu près. 35 même. Oui, 35. Oui, effectivement, 35. Alors, il y a ces romans. Ce que j'ai admiré chez lui, c'est qu'ensuite il est passé à des romans d'un tout autre genre, tout en restant fidèle à ses romans expérimentaux, à ses romans de la tradition moderne. Ce que j'apprécie aussi beaucoup chez lui, c'est cette attention à la langue et à la société contemporaine à travers la langue. Donc, beaucoup de petits essais. Et puis, il y a aussi tout le genre des voyages, et notamment les livres qu'il publie en ce moment, récemment, sur la géographie des écrivains et sur les maisons d'écrivains. Très beaux livres. Et puis, il y a tout le continent pour lequel j'ai pensé qu'il était important qu'il vînt dans le cadre de ce séminaire. Il me semblait qu'il était important, à propos de cette réflexion sur l'écriture de la vie, que nous recevions un auteur de journal de cette écriture au jour le jour, un diariste. Et il me semble que Renaud Camus est le plus consistant des diaristes français aujourd'hui, dans la littérature française, puisqu'il publie régulièrement, tous les ans, depuis, non pas 35 ans, pas tout à fait, mais presque en vérité, presque 35 ans, un volume de son journal. Alors, je ne sais pas si c'est de cela qu'il va nous parler, mais c'est en raison de cette écriture-là, de ce continent-là de son écriture, hein. Encore une fois, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est en raison de ce continent-là qu'il me semblait qu'il était indispensable qu'il vienne participer à ce séminaire. Et puis, on peut dire que c'est aussi en hommage à Roland Barthes, puisque c'est autour de lui que nous étions connus. Nous ne sommes pas souvent revus, mais c'est en souvenir de Roland Barthes, qui a disparu il y a tout juste 30 ans, à peu près, à cette date. Alors, le titre que vous avez donné, c'est « Graphobie, note graphophobie ». À vous. Oui, ok, Michel.
Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord bien entendu remercier Antoine Compagnon de cette invitation. Je suis enchanté, d'autant qu'elle me donne l'occasion de revenir dans cette maison que j'ai beaucoup pratiquée, justement en étant très ancien, à une époque où elle était extrêmement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Je vois qu'elle a physiquement, en tout cas, changé pour le meilleur, et que c'est beaucoup plus agréable. Cela dit, je voudrais me livrer devant vous à un exercice extrêmement difficile. Non pas difficile dans l'absolu, parce que pour beaucoup de personnes, il ne présenterait aucune difficulté, au contraire, mais très difficile pour moi. Vous savez qu'il est assez accoutumé de diviser les écrivains entre ceux qui écrivent parce qu'ils parlent bien et en quelque sorte prolongent dans l'écriture cette facilité qu'ils ont dans leur relation avec la parole, et ceux d'autre part qui sont plutôt plus nombreux, je présume, de ceux dont on peut dire au contraire qu'ils écrivent parce qu'ils parlent mal ou bien parce qu'ils ont une difficulté avec l'expression, avec la parole, avec le discours, avec le traitement de la pensée. Et moi, hélas, j'appartiens incontestablement à cette deuxième catégorie. J'ai une grande difficulté avec l'élocution, je ne suis pas orateur pour dessous, et je suis effroyablement sujet au trou, à la perte, au manque, à l'absence soudaine, à la disparition de mon thème, et je ne sais plus du tout de quoi je voulais entretenir mon auditoire. Alors évidemment, je me soigne comme je peux et j'ai différentes méthodes pour essayer d'apprivoiser cette difficulté. Par exemple, je peux très bien préparer mon sujet, mon discours, tout écrire. Par exemple, il y a quelques années, j'avais été invité à faire une conférence à la Sorbonne à propos d'un colloque sur la langue et j'avais accepté. J'avais été ensuite un peu effrayé des responsabilités que j'avais prises. Mais j'avais bien préparé ma conférence, tout écrit, ça donnait d'ailleurs ensuite, puisque c'était tout écrit, un petit livre qui s'appelle « Syntaxe ou l'autre dans la langue », et il n'y a pas eu grand effort à faire pour qu'il passe de l'oral à l'écrit. Le grand inconvénient de cette formule, c'est qu'elle est extrêmement ennuyeuse pour l'éditeur, car l'auditoire, car rien n'est embêtant comme les personnes qui lisent un discours, une conférence, une élocution. La plupart du temps, je me livre à une formule intermédiaire qui consiste à prendre quelques notes et à essayer de me débrouiller avec ces notes. Et au fond, j'ai une sorte de sécurité parce que quand je suis perdu, je regarde mes notes et je m'en tire à peu près de cette façon, pas du tout brillamment, mais enfin, je m'en tire, disons que ça passe. Et puis, aujourd'hui, inspiré peut-être par le sujet, mais je ne sais plus comment, j'ai décidé de me livrer à un exercice, donc pour moi, beaucoup plus difficile, c'est-à-dire de n'avoir aucune note, et, je le dirais franchement, de n'avoir même rien préparé du tout. Donc, je suis devant vous, ne sachant pas très bien si, sinon par mon titre, ce dont je vais parler est très exposé à ce qui pourrait être un naufrage. D'ailleurs, cette conférence, avec tous les guillemets de rigueur, pourrait très bien s'appeler « naufrage ». Et voilà, d'ailleurs, après ce préambule, je ne sais plus très bien. Enfin, si naufrage il y a, laissez-moi un peu essayer de m'en sortir, de nager. Mais si naufrage était trop grave, Antoine Quépagnon est là, il est question de l'entretien entre nous. Donc il peut, quand on me pose des questions, je peux répondre en général. Mais j'ai choisi ce danger de naufrage parce que il se trouve être tout à fait central à ce que j'ose à peine appeler mon travail, en tout cas mon labeur, cette difficulté de trouver la suite. Autre expérience de colloque ou de conférence, il y a, ça c'était plus récent, l'année dernière, j'avais été invité à un colloque à l'IRCAM parmi les musiciens pour parler de la complexité. Et je n'avais pas beaucoup d'idées quand je suis arrivé au colloque, mais j'en avais en partant. Et j'avais une idée renouvelée de ce que pouvait bien être la complexité. On voit toujours la complexité comme quelque chose en plus, comme procédant d'une sorte de surabondance d'idées, d'intelligence, de niveau, de sens et de discours, comme un supplément. Et je me suis aperçu que dans mon cas, mais je crois qu'il n'est pas tout à fait spécifique, la complexité, si complexité il y a, procède au contraire d'un manque, de cette difficulté de trouver la suite, de cet éloignement de la terre ou abordée pour la pensée. Et c'est certainement, d'une part, ce qui me pousse à écrire, et d'autre part, ce qui me pousse à écrire comme je fais, en particulier dans cette partie de mon travail qui s'appelle les églogues, mais qui, bien entendu, n'est pas sans rapport avec les journaux. Nous y viendrons. Alors, je ne puis vous exposer que quelque chose qui relève de mon expérience propre, mais si je me permets de le faire, c'est parce que j'imagine qu'elle peut trouver des voisinages, des résonances, des rimes dans votre propre rapport à la pensée. En tout cas, dans mon cas, elle ne se présente en aucune façon comme quelque chose de linéaire, où l'on saurait où l'on va et où on est parfaitement conscient des relations dont on a l'expérience, car la pensée, le rêve, l'insomnie plus que le rêve, peut-être dans mon cas, vous laisse le souvenir qu'entre différents points, qui ne sont pas tous d'ordre intellectuel, il y a une relation, on sait qu'il y a une relation. Mais mon travail, celui auquel je me livre, est d'essayer précisément de retrouver cette relation perdue, de voir le lien entre différents éléments qui, à certains moments, me sont apparus tout à fait clairement. Et puis, cette clé est perdue, je ne vois plus quel lien il y a entre ceci et cela. À ce moment, je suis en effet comme un naufragé qui aperçoit soit un radeau, soit une planche de salut, soit une île dans le lointain et qui essaye de la rejoindre. Et c'est pour moi cela qui serait écrire, c'est-à-dire non pas enchaîner les idées, mais trouver des liens. Et ce qui est central dans ce que j'essaye de faire, c'est cette recherche du lien. Je dois préciser d'ailleurs au passage que ce naufrage auquel je fais allusion n'est pas nécessairement sans quelque jouissance. Ce naufrage est éventuellement très agréable, voire voluptueux, cette recherche est éventuellement jouissive. Je pense ici à ce vers si beau de Leopardi. Je pense souvent à des vers de Leopardi, mais celui-là est celui qui me semble le plus secourable. Et naufragar me dolce in questo mare. Et me noyer, mais doux dans cette mer qui serait la mer du sens, mais pas seulement du sens, celle des images, des mots, des. Le terme de dolce est probablement précieux ici, vous savez, Dante, dont j'ai beaucoup entendu Barthes parler, non pas tout à fait dans cette salle, mais presque à cet emplacement, rapproche très naturellement la douceur du style, le dolce stile nuovo. Et il y a évidemment dans le style, dont un écrivain ne peut parler que comme d'une aspiration, bien entendu, une douceur spécifique. Vous rappelez aussi le mot de Bergotte, je crois, mais là je parle devant une autorité qui devrait m'inciter à la prudence, et qui dit qui convient qu'une page est assez réussie en disant que c'est bien doux, que c'est bien doux. D'ailleurs, je pourrais faire référence à beaucoup de façon un peu suicidaire en cette compagnie à beaucoup de passages de Proust, je pourrais, pour expliciter ma pensée ou ma non-pensée, faire allusion à deux passages qui sont particulièrement importants pour moi et dont je crois aussi qu'ils sont particulièrement importants pour Proust, parce que d'une certaine façon, ils expriment son art poétique. C'est le passage merveilleux où il est question, de façon tout à fait accidentelle, de Lapérouse, le marin. C'est au cours d'une soirée mondaine, conversation entre Swann et le général de Froberville, et le général de Froberville, qui désire être présenté à Madame de Combremer, dit « J'aimerais mieux être le mari de cette femme-là que d'être massacré par les sauvages, qu'en dites-vous ?» Et Swann, qui craignait beaucoup la conversation avec le général de Froberville, qui était un raseur patenté, est néanmoins très intéressé par « massacré par les sauvages », parce que « massacré par les sauvages » lui permet de parler de Lapérouse. Et Swann est obsédé par Lapérouse et il se jette là-dedans et dit « massacré par les sauvages, il y a des morts plus terribles que celle-là, c'est une grande figure que celle de Lapérouse ». Tout ça parce que parler de Lapérouse lui est l'occasion de parler d'Odette qui, comme vous le savez, habite rue Lapérouse. Et d'ailleurs, Froberville tombe immédiatement dans le panneau et dit « Ah oui, oui, c'est connu d'ailleurs Lapérouse, d'ailleurs il a sa rue ». Alors là, c'est même un peu trop, et évidemment le thème de la jalousie omniprésent intervient, et Swann dit « Comment, vous connaissez la rue Lapérouse ?» Mais Froberville le rassure en lui disant « Oui, oui, c'est parce que... » Alors, je vais un peu m'embrouiller dans les noms. C'est Madame de Champlivaud, je crois, qui nous a donné une charmante soirée théâtrale, qui est la sœur de ce brave Chausse-Pierre. Donc, Swann est rassuré. Pas d'intimité avec telle maison particulière de la rue Lapérouse. Et là, cette phrase magnifique qui, à mon avis... Alors là, je vais dire une énormité, je vous préviens. Et une grande partie de l'art poétique de Proust, et qui en tout cas est essentielle au mien. Il dit, la phrase est « Et Swann était heureux comme s'il avait parlé d'Odette. » Parce qu'il a parlé de Lapérouse. Et alors, quel rapport entre Lapérouse et Odette, sinon cette circonstance tout à fait accidentelle qu'elle habite rue Lapérouse. Et nous sommes là au cœur de la recherche des passages, qui est ce qui m'a obsédé toute ma vie. D'ailleurs, si je puis me permettre de le rappeler, le premier livre que j'ai publié, qui n'a pas eu une préface de Barthes, mais qui a été un peu lancé, si l'on peut dire, il n'est pas allé bien loin, mais enfin, il a été lancé par Barthes parce qu'il avait la gentillesse de faire avec moi une émission de radio à l'époque, s'appelait Passage. Donc, et tous mes livres pourraient s'appeler Passage ou La recherche des passages. D'ailleurs, La recherche des passages a été, comme vous le savez, l'élément moteur de l'exploration, hein, en particulier de la fin du XVIIIe siècle. Et Lapérouse, car le signifier, comme on disait dans les années 70, accroche toujours du sens au passage, c'est le cas de le dire. Lapérouse est un des grands marins, il a participé à la recherche des passages. D'ailleurs, détail merveilleux, je suis sûr que vous savez comment s'appelait le navire. Lapérouse, comme vous le savez, s'est perdu, a disparu en mer, il avait été envoyé en 1788, en 1791, on n'avait plus de nouvelles de lui. Et la Convention a décidé d'envoyer un navire pour chercher Lapérouse, commandé par Dumont-Durville. C'est une des dernières décisions qu'est prise, ou qu'elle est souscrite, en tout cas, Louis XVI, d'envoyer Dumont-Durville pour essayer de retrouver la Pérouse. Et vous savez, bien sûr, comment s'appelait le navire que commandait Dumont d'Urville, qui était donc magnifiquement La Recherche. Un autre, je me souviens que je voulais parler d'un autre passage de Pérouse. Ah oui, si, c'est le passage absolument central et beaucoup moins plaisant et assez menaçant quand c'est la parole du père, c'est la loi du père. C'est cette phrase, évidemment, capitale, elle aussi, quand le père est mécontent des fréquentations du fils. Il y a une phrase que je vais massacrer, mais toujours est-il que sa partie centrale est « c'est tout un ensemble », disait mon père, et j'étais aussitôt effrayé par... je suis en train de massacrer, non pas les sauvages, mais la phrase. J'étais aussitôt effrayé par l'ensemble de mesures dont je voyais l'imminente introduction dans ma si douce vie. Je ne suis sûr que de l'imminente introduction dans ma si douce vie. Et le père est évidemment celui qui dit c'est tout un ensemble, ou dans l'autre forme, dans l'autre phrase, et le tout se tient étant évidemment ce qui préside à cette éternelle et obsessionnelle recherche des passages. Maintenant, il faut bien que j'en arrive à mon titre, dont je conviens qu'il est mal gracieux et fort laid, graphophobie, note graphophobie. Je dirais que j'ai un rapport, j'allais dire un rapport insuffisant à la réalité, pour paraphraser cette fois Breton, que je suis exagérément sensible au peu de réalité, mais en fait je me demande si ce n'est pas le contraire. Je ne suis pas sensible au peu de réalité, je suis sensible au contraire à l'excès de la réalité, très sensible au fait que l'intelligence, ou en tout cas la mienne, la vôtre peut-être pas, je vous le souhaite, est dans un rapport sans relation quantitative avec l'immensité du pensable, du connaissable, de l'aimable, et pour commencer, du lisible d'ailleurs. Nous ne pourrons jamais lire tous les livres, encore les aurait-on lus qu'il faudrait les relire pour les bien connaître, et éventuellement céder de littérature secondaire, comme on dit méchamment, ou de cours au Collège de France pour les mieux comprendre. Nous sommes dans ce manque perpétuel. Une vie n'y suffirait pas. Nous sommes, j'aime à dire, comme nous avons de la réalité du monde sensible, à peu près à la relation qu'a une termite dans une bibliothèque. Elle doit bien voir... qu'il y a des livres, qu'il y a des rayonnages à manger, encore que je ne sache pas si les termites mangent du bois, si, sans doute. Mais enfin, l'ensemble de tout ça est trop grand pour nous. Et moi, j'ai aussi constamment cette impression que l'ensemble du connaissable est très bien trop grand, trop vaste pour nous. Il nous faudrait... pardonnez-moi, je sens que je fais exagérément des allusions et des références littéraires, mais celle-là aussi m'est très chère, bien qu'elle soit de la plus insigne banalité. C'est celle de la carte qui est aussi grande que le monde, et dans lequel on a fini par faire des cartes si perfectionnées qu'on est obligé de vivre sous la carte qui coïncide exactement avec la Terre. Et c'est, je crois, pour cette raison que j'écris, et en particulier que j'écris mon journal d'une façon nettement exagérée et abusive, et qui relève, pour le coup, de la graphomanie par une espèce de pulsion selon laquelle ce qui est écrit, au moins, est un peu gardé, ne va pas se dissoudre tout à fait. Et il y a bien entendu une relation entre le journal Et ces autres livres dont je vous parlais très allusivement tout à l'heure, en l'occurrence les églogues, et en particulier les premiers journaux que j'ai non pas publiés, car ils n'ont été publiés que tout à fait récemment, mais que j'avais écrits, n'étaient pas du tout destinés à la publication. Les livres qui sont parus en deux volumes s'appellent le journal de travers, et ça renvoie d'ailleurs tout à fait aux années auxquelles Antoine Compagnon faisait allusion récemment, puisqu'il s'agit des années 1976-1977. Ce journal de travers avait été écrit très délibérément pour servir de dépôt de situation, mais surtout, et là, vous devrez pardonner une fois de plus le côté vraiment désuet de la terminologie, de dépôt de signifiant, en quelque sorte, pour des livres qui devaient s'appeler Travers, et qui d'ailleurs s'appellent Travers, et qui continuent de paraître, puisque Travers doit être en 4 volumes, qui sont plus ou moins, mais ce n'est pas explicité, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. L'hiver n'est pas paru encore, mais il y en a 3 qui sont parus, et l'hiver est celui auquel mes associés et moi travaillons actuellement. Mais ce premier journal écrit était très manifestement et très délibérément un dépôt de signifiants, de situations, de noms, de matière pour ce travail sur les églogues. Puis j'ai emporté par mon élan ensuite, mais non sans une interruption, j'ai publié ces livres qui paraissent en effet annuellement, qui sont des journaux dans cette espèce de folie qui le m'aiderait à combattre ce sentiment exceptionnel, sinon du trop peu de réalité, du moins de trop peu d'éléments d'appréhension de ma part à l'égard de la réalité. Ça peut être tout simplement des sentiments tout à fait banals, comme une conscience exagérée de la rapidité du temps qui passe, en l'écrivant à telle enseigne que j'ai fini, mais très tôt, par former ce fantasme, cette folie, ce délire qui procède certainement d'une bonne, gentille névrose assez correctement administrée, je l'espère. En tout cas, jusqu'à présent, la machine tient encore à peu près. Que l'écriture offrirait, je ne sais pas pourquoi je dis l'écriture, parce que c'est un mot que je déteste absolument, mais on ne peut pas dire, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un écrivain ne peut pas parler de ce qu'il fait en parlant de littérature. Par écriture, je n'entends rien de mystique ou de sacré, mais je veux dire tout simplement le fait qu'on écrive offrirait une structure à la vie, et au fond, le projet qui est là formé est tout à fait est le contraire exact de la biographie. La biographie est le fait d'écrire une vie qui est préalablement vécue, et ce que j'appelle la graphobie. Nous y arrivons. À ne pas confondre, comme c'est le cas très fréquemment, avec la graphophobie, qui serait l'horreur de l'écriture. Et Dieu sait que je ne suis pas affecté d'horreur de l'écriture, puisque je suis au contraire sévèrement victime de graphomanie. La graphobie serait ce fantasme, cette utopie, selon laquelle la vie qu'on vit serait entièrement soumise, sujette à l'écriture, prévue par l'écriture, tenue par l'écriture, conçue par elle, placée tout entière, si l'on peut dire, sous l'instance de la lettre. Je crois que il y a des précédents à ce délire. Je sais que quelqu'un qui a été très important pour moi, que Barthes, pour pouvoir le dire, ne tenait pas en très haute estime, et il me reprochait un peu l'intérêt que je lui portais, mais je suis resté toujours fidèle, qui est Jean Ricardou, figure très importantes de la vie littéraire des années 1970, auxquelles je suis resté d'ailleurs tout à fait fidèle, vivaient de cette façon et qui n'étaient peut-être pas soumises à la lettre à proprement parler. Je saurais d'ailleurs très mal expliquer ce qu'il faisait lui, mais ça avait beaucoup impressionné à l'époque qu'il choisissait ses adresses selon des motifs extrêmement compliqués. Il devait habiter rue Lénine ou pour une raison quelconque à telle époque et rue quelque chose d'autre à une autre époque. Et je dois dire que j'ai un peu généralisé dans la mesure du possible cette formule, en tout cas ce qui donne une structure à une vie qui menaçait de partir dans toutes les directions et en avoir aucune, serait de la placer tout entière sous l'instance de la lettre, de la phrase, pour commencer, de la syntaxe, bien sûr. Je me suis permis de rappeler que j'avais écrit un petit livre qui s'appelait « Syntaxe ou l'autre dans la langue », et bien entendu, j'ai toujours conçu la syntaxe non seulement comme un instrument de discours, mais comme un instrument de perception même du réel. C'est pourquoi la crise de la syntaxe est si grave, parce que la syntaxe est une façon de percevoir le monde, et les individus sans syntaxe d'abord ne peuvent pas classer ce qu'ils voient, mais d'abord ne voient pas, tout simplement, comme quand on a pas, il en va de même du vocabulaire d'ailleurs. Je suis toujours été persuadé que l'œil était très bête et ne voyait que ce qu'il avait les mots pour nommer. Il en va ainsi de la syntaxe. Donc là, déjà à faire des phrases. Bon, oui, je m'arrête là d'ailleurs. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire.